affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Alors que nous enregistrons notre émission de ce jour, la France n'est pas seulement engourdie par la moiteur d'un printemps orageux, elle est aussi paralysée, ou presque, par deux grèves concomitantes dans les transports, grève à la SNCF, grève des taxis, de quoi alimenter évidemment l'exaspération et les sarcasmes de nos amis étrangers sur cette France qui peine décidément à s'adapter à la modernité, à la mondialisation, aux normes internationales, etc. Hors de la France et de sa destinée, il sera justement question dans notre émission de ce jour. Notre invité s'est en effet fait une spécialité ou un devoir d'ausculter notre pays, son identité, sa singularité. Depuis toujours, depuis sa plus tendre enfance, passée sous d'autres latitudes, on devine qu'il s'en est fait une certaine idée. Puis, porté par cette idée, il a fait le choix non seulement d'y habiter, mais aussi d'habiter sa langue, car cet homme est écrivain. Et depuis lors, comme un fil rouge, il explore notre pays et notre civilisation avec un mélange unique de bienveillance et d'exigence. Sa bienveillance, bien sûr, est le signe de son amour pour notre pays, et bien sûr, son exigence aussi. Notre invité, en effet, ne cède pas à la tentation du sarcasme facile. Il ne nous jette pas à la figure des clichés éculés, il ne nous demande pas de sortir de nous-mêmes, de nous dépouiller de notre lointain héritage, ce trésor devenu si encombrant aux yeux de certains. Non, il nous enjoint, au contraire, d'assumer ce trésor, de le faire fructifier. Il ne faut pas s'y tromper. Cet écrivain se refuse à toute complaisance à notre égard. Bien au contraire, cette voix n'est pas là pour nous bercer, mais pour nous secouer. Sans pourtant jamais hausser le ton, elle exige des Français qu'ils redeviennent dignes de ce qu'ils prétendaient être. Elle nous invite à nous hisser au-dessus de nous-mêmes. Elle nous invite à ce mot si effrayant, devenu si effrayant aujourd'hui, la grandeur. Cette voix singulière nous vient de Sibérie, c'est celle d'Andreï Makine, auteur notamment du Testament français, et qui vient tout récemment de se voir décerner le prix mondial 2014 de la Fondation Simone et Sino del Duca, abrité par l'Institut de France pour l'ensemble de son œuvre. Andreï Makine, qui après avoir publié donc, le Testament français et un ouvrage titré « Une certaine idée de la France », consacre un nouveau livre à cet objet singulier de l'histoire de l'humanité qu'est notre pays, sous le titre « Le pays du lieutenant Schreiber ». Andreï Makine, bonjour, merci bonjour. Beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quel est ce pays du lieutenant Schreiber? Est-ce bien celui dans lequel nous vivons aujourd'hui?
C'est un pays rendu invisible, ai-je dit dans ce livre, rendu invisible par tout un plan, tout un écran de fumée de l'immédiateté, de l'actualisme effréné. On aurait pu appeler ça plus gentiment, dire que c'est de l'écume des jours, vous voyez, avoir une référence plus littéraire. Mais je pense que c'est plus grave que ça. C'est un changement de civilisation, un vrai changement civilisationnel qui a plusieurs aspects et qui me rappelle d'ailleurs ce discours de Michel Serres. C'était à Tokyo. Et Michel Serres s'est prononcé sur la passation d'un héritage culturel. C'était très intéressant parce que c'est quelqu'un qu'on ne suspecterait pas d'un nationalisme borné, pas du tout, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert. Mais la question était bien posée, comment un héritage élaboré par une civilisation, par une nation, par un peuple, peut, sans grand dommage, passer aux générations et même aux populations qui ne sont pas, par leur histoire, ancrées dans l'histoire de ce pays. Voyez-vous, ça paraît très théorique, mais en même temps, nous sommes dedans aujourd'hui. Comment ce trésor, comme vous dites, culturel, civilisationnel, peut être transféré sans qu'il y ait un hiatus culturel, un gouffre du Moyen-Âge, de la barbarie, de l'absence de civilisation totale. Et ce qui est fort intéressant, c'est que finalement, l'humanité a prouvé que pendant d'assez longs moments, elle peut exister dans un sort de vide culturel. C'est possible. C'est mortifère pour l'humanité, mais c'est possible.
Vous, Andreï Makine, vous vous êtes fait une certaine idée, je le disais en introduction, une certaine idée de la France avant de la connaître, de l'intérieur. Est-ce que cette idée de la France correspond à ce que vous avez découvert? Peu oui. ou prou, pas?
Oui, je vais vous dire, j'ai très peu de prétentions et surtout je n'ai pas cette spécialité justement, ni même le devoir d'expliquer quoi que ce soit aux Français, de leur donner des leçons, ils n'en ont pas besoin. Mais il faut peut-être à chaque pays un observateur un peu latéral, un peu extérieur pour voir certaines choses et comme un détecteur de métaux, vous voyez, voir ces premiers frémissements d'une tendance. Et donc, pour moi, c'est un objet absolument fantastique, cette terra incognita que j'ai essayé de connaître encore en vivant en Russie. Maintenant, j'ai vécu quand même un quart de siècle ici, donc voyez-vous, on ne peut pas me considérer comme parfaitement extérieur, mais cet exercice me plaît beaucoup.
C'est un exercice ancien de surcroît, puisque je crois qu'à l'inverse, la France a été cet objet extérieur qui a permis aux Russes de se définir dans les...
Oui, la France passé. Était un miroir, finalement. Vous savez, chaque civilisation aussi jeune que la civilisation russe, c'est une civilisation jeune. Le côté occidental, donc moderne de la Russie, a commencé grosso modo avec Pierre le Grand. Et donc, cette jeune civilisation qui voulait absolument s'emparer d'un héritage qui n'était pas le sien, et il avait besoin d'un miroir occidental pour se voir dans ce miroir, pour dire, écoutez, voilà, je commence à ressembler à quelque chose, oui, quelque chose qui, ce qui était d'ailleurs parfois néfaste pour la Russie, une occidentalisation forcée, à marche forcée sous Pierre le Grand, était très douloureuse. Et Pierre a insisté, il a édité par exemple un livre qui s'intitulait « Symbola et emblemata », donc les symboles et les emblèmes de l'art et de la culture occidentale. Les Russes devaient comprendre que une statue d'une jeune fille en pierre, comme il disait en revenant de Florence, ce n'était pas juste une jeune fille, c'était une déesse. Et donc, toutes ces clés étaient données, il fallait les apprendre pour ouvrir ce château fort de cette orgueilleuse civilisation occidentale.
Toutefois, face à la France aujourd'hui, vous ne présentez pas seulement le miroir d'une autre Russie, vous lui présentez aussi le miroir d'une France d'avant, peut-être celle d'avant, mais pas si lointaine, la France du le pays du lieutenant Schreiber.
Nous avons commencé par cela, vous m'avez posé cette question, et mentalement je me suis dit, mais finalement, quelle est cette France qui correspond à sa France, à lui? D'abord, une France très ouverte. Imaginez un Prussien, un juif prussien, son grand-père, arrive en France, Joseph, et il s'intègre. Il s'intègre grâce à un travail acharné, grâce à une fidélité sans faille à cette civilisation, et moi, c'est un peu malaisé de le dire, mais je dirais grâce au rejet de quelques oripeaux coutumiers qui ne passaient pas avec évidence dans ce pays-là. Vous voyez, son père était rabbin. Lui, il devient un laïciste militant. Son fils se convertit au catholicisme, mais sans donner à... disons, aucune consigne religieuse à ses enfants. Il y a un bouddhiste, un servant Schreiber bouddhiste. Il y a sans doute ceux qui ont gardé leur fidélité au judaïsme. Donc, c'est extrêmement varié. Mais la France permet cet éventail de possibilités à une seule condition, c'est qu'il y ait un socle commun, un socle civilisationnel, culturel commun. C'est qu'il y ait encore une langue qui soit compréhensible. Je ne parle pas de la langue française, ça, c'est le moment des choses, de l'apprendre quand on vient en France. Mais je parle de cette langue civilisationnelle, de ce moyen de communication. Il faut un minimum de références communes. Si on ne les a pas, tout se disloque. On vit sur un même territoire, mais on ne vit pas dans un même pays.
C'était donc une France à la fois ouverte, mais qui osait s'affirmer. Et qui, par le fait qu'elle s'affirmait, pouvait aussi attirer, j'imagine.
C'est une France qui jouait les cartes sur table, à mon avis. Quand les Russes, après leur révolution, après une guerre civile absolument monstrueuse, sont arrivés en France, et l'immigration comptait à peu près 2 millions de personnes. On oublie ça. Imaginez un paquet humain qui arrive comme ça, mais, d'un coup. Comment ont-ils fait pour s'intégrer ? Vous allez me dire, mais bien sûr, c'était des comtes et des princes russes, mais pas du tout. C'était la soldaté, c'était les soldats, c'était l'armée avant tout qui est arrivée massivement ici. Donc c'était des soldats ensauvagés par la guerre, ensauvagés par une guerre fratricide, ce qui est le pire dans le domaine militaire, et qui en arrivant en France ont, en quelques années, ont réussi à intégrer ce pays, hein, à apprendre la langue, à trouver du travail. Ce n'était pas toujours facile. On voyait justement ces princes russes chauffeurs de taxi. Mais ça s'est fait, à mon avis, grâce à la clarté du langage que la France tenait vis-à-vis des étrangers à ce moment-là. Nous sommes un pays exsangue. Nous sortons d'une guerre 14-18 qui nous a coûté 1,5 million de morts et combien de blessés et combien de destructions. Et il n'y a pas de choix. Le choix est très simple. On vous accueille, l'hospitalité est là, mais au-delà de cela, il faut s'intégrer, c'est tout. Il faut s'assimiler. Il faut que vos enfants soient de bons petits Français, qu'ils parlent un bon français, qu'ils s'intègrent dans le système éducatif. Et donc, le choix est très simple. Et donc, je pense que cette simplicité, cette transparence du choix a fait qu'il n'y avait pas de flottement. Les gens savaient ce qu'il fallait faire. Vous allez me dire, oui, bon, mais c'était peut-être les Russes qui étaient aussi des orthodoxes, donc les chrétiens. Ce n'est pas si vrai que ça, parce que si vous regardez l'histoire, la France a parfois a fait des alliances plutôt avec les musulmans, avec le sultan, contre ses frères chrétiens. La guerre de Crimée, on oublie souvent...
Oui, mais ce sont des choix diplomatiques plus que civilisationnels, quand même.
Oui, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible, voyez-vous. Donc, ce n'est pas tout à fait religieux. Ça sort un peu du domaine religieux. Mais je pense qu'il ne s'agissait pas seulement de la religion, il s'agissait de ce langage politiquement très clair.
Au-delà de cette fermeté, finalement, ce que vous semblez dire, c'est qu'il y a une forme de fermeté dans le contrat qui était proposé. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi autre chose, c'est-à-dire le fait que nous avions un legs à proposer, quelque chose qui était enviable, alors qu'aujourd'hui, on a peut-être le sophisme ou l'erreur est-elle de penser que pour intégrer, il faudrait d'abord se dépouiller de ce legs. Mais si on n'a plus rien à proposer d'enviable, pourquoi ferait-on un effort ? S'intégrer au néant ?
C'est aussi un
des nœuds du problème.
Voilà. À quoi faut-il s'intégrer ? Oui. On répète ça tout le temps. Intégrez-vous, il faut lancer l'intégration. Mais à quoi voulez-vous qu'on s'intègre ? Un pays où 10 millions de spectateurs peuvent regarder un Love Story ou bien un match de foot, là, regardez. C'était le 6 juin. Je branche la radio, j'entends ça. Donc, les principaux sujets de la journée. Moi, je pense, bon, c'est le débarquement, c'est évident. Mais non, ce n'était pas le débarquement. C'est qu'un des footballeurs avait mal au dos et il ne pouvait pas partir jouer au Brésil. Ça, c'était un drame national. Et pendant 5 minutes, on ne parlait que de ça. Et puis, ces pauvres vétérans qui arrivent, mais bon, ça, c'est secondaire. Voyez-vous, si, quand même, dans le service public, dans la principale station de radio en France, on puisse... commettre des erreurs de cette nature, c'est qu'il y a un changement presque cérébral chez les gens qui gouvernent l'opinion. Il faudrait s'en émouvoir, peut-être.
C'est un exemple assez troublant, d'ailleurs, car le football, précisément, une sorte de manifestation qui peut être nationaliste, mais qui n'est que cocardière. C'est-à-dire qu'il reste les couleurs, mais plus la substance.
Et même la couleur, vous savez, je pense que ce qu'il reste, c'est surtout une sorte de drogue mentale. Il faut abrutir les gens. Et il faut qu'ils ne pensent pas à autre chose, vous voyez. Panem et circenses, du pain et du spectacle, vous voyez. Vraiment, c'est l'exemple romain, on le suit trait pour trait. Bon, peut-être avec un peu moins, il n'y a pas de gladiateur, donc c'est moins cruel. Mais c'est le commerce, vous voyez, c'est le business, le grand business. Et ce n'est qu'une facette, finalement, de cette transformation vénale de l'humain. l'humain est calculé commercialement. Et c'est, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre lecture de l'humain.
Une lecture
aujourd'hui.
Utilitariste, vous voulez dire
oui,
instrumentale.
Oui, instrumentale, mais enfin, ça aurait été moins grave. Mais justement, il y a une expression vénale de l'essence humaine. Combien ça coûte, combien ça rapporte. Et c'est quand la lecture humaine se rétrécit à ce point, je pense qu'on peut se poser la question, mais où est l'humain ? Est-ce que l'humain est encore envisageable ? Ou bien on entre dans la sphère robotique, qui d'ailleurs qui nous atteigne par les deux bouts, parce que les scientifiques fabriquent des robots mécaniques, les idéologues fabriquent des robots en chair et en os. Donc finalement, les deux armées se rejoignent.
Si vous me permettez cette réflexion, lorsque vous parlez ainsi, je vous redécouvre russe, avec l'ouverture de béances métaphysiques et de questions qui irriguent.
Les béances nous manquent, finalement. Voyez-vous, vous ouvrez la littérature d'aujourd'hui, les romans, c'est quand même, ça suit l'actualité. Je parle de la littérature des petites névroses contemporaines, en opposant justement à cette littérature-là le destin du lieutenant Schreiber, lui qui a vécu la mort de très près, qui a vu ses frères d'armes tomber, qui a vu le sang, qui a vu des villages rasés, et qui, à un moment, a existé au bord de l'abîme existentiel. Et dans ce livre-là, bien sûr, la France est abordée, la question de l'identité française, mais pour moi, ce qui est abordé aussi, c'est cette leçon existentielle qu'il nous donne. Comment ce petit Français, ce soldat, qui n'avait rien d'exceptionnel au départ, comment, grâce à cette fraternité d'armes, il a pu découvrir justement ces abîmes existentiels. Ce qui manque cruellement, vous avez tout à fait raison, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde intellectuel, parce qu'il est devenu parfaitement pavlovien, donc on répète les thèmes. Enfin, ce sont en quelque sorte, ce sont des sous-traitants des idées communes qu'on branche, qui répètent leur petit discours, et ces discours s'éteignent au même moment que passe l'actualité.
Le problème que vous décrivez, comme nous sommes français, nous avons un peu tendance à considérer, de façon un petit peu nombriliste, mais ça fait peut-être partie des quelques travers de notre identité justement, qu'ils nous sont propres. Parce que finalement, ce ne sont pas les problèmes de la modernité, la post-modernité, je ne sais plus comment il faut l'appeler.
Tout à fait. Mais voyez-vous, si je vous posais cette question, quel est le plus grand... Commençons par les Allemands. Quel est le plus grand poète allemand ? Goethe vient tout de suite, n'est-ce pas ? Si je vous parlais des Espagnols, vous direz Cervantes. Anglais,
Shakespeare.
Mais si je vous parlais des Français...
Il y a l'embarras du choix, c'est ça que vous voulez que je dise.
Voilà, Balzac, Rabelais, mais non Proust, mais non Flaubert, Molière. Et là, les Russes.
Oh, les Russes, il y en a quand même.
Pushkin. Donc, il y a deux pays. Pushkin, il y a Tolstoï, il y en a plusieurs, bien sûr. Oui. Il y en a plusieurs, il y a Bulgakov. Donc, il y a plusieurs. Il y a deux pays dans ce monde qui donnent cette palette littéraire. Quand je dis littéraire, c'est-à-dire l'imaginaire. Quand je dis l'imaginaire, c'est la philosophie, l'eschatologie, c'est... La métaphysique, parce que ça ne se réduit pas du tout à écrire quelques belles pages, c'est beaucoup plus large. Donc il y a deux pays, c'est un club très fermé. Et à ces deux pays, on demande beaucoup. À tout seigneur, tout honneur, noblesse oblige. Donc voyez-vous, quand vous me trouvez peut-être un peu trop critique, mais je ne sais pas si tant que ça, avec la Russie ou avec la France, c'est que... On peut demander à ces pays beaucoup plus qu'on demanderait, je ne sais pas, à la Suisse ou aux Belges, tout en les respectant profondément.
Oui, s'agissant de la Belgique, il y a une question d'échelle aussi, je pense.
Oui, le Canada, parlons du Canada. Donc, oui.
Vous pensez que la sortie de cette crise de civilisation, de cette crise spirituelle, pourrait passer par une sorte de dialogue franco-russe comme il a pu exister, ou une vivification croisée
Oui. Écoutez, les alliances sont renversées. Et donc, la France, politiquement et même civilisationnellement, entre dans une période assez inconnue. cette alliance franco-russe était une donnée presque évidente. Vous voyez, à partir de Poincaré, avant Poincaré, c'était Pierre le Grand qui admirait profondément la France. Avant, c'était Yaroslav le Sage, n'est-ce pas, dont la fille est devenue au Xe siècle la femme d'Henri le Premier. Donc, Henri Ier. Et donc, c'était quelque chose d'assez évident. On ne va pas refaire toute cette tradition franco-russe, ça serait trop long. Maintenant, l'alliance s'inverse. Donc, une alliance atlantique, c'est bien annoncé. Mais il faudrait peut-être se souvenir de cette parole étrange, en même temps juste, de François Mitterrand, qui a dit un jour « Les États-Unis mènent contre la France une guerre invisible, une guerre muette, mais une guerre à mort. » Et c'était très juste. On ne peut pas devenir un pays ami des États-Unis. On peut devenir un vassal sympathique, un vassal à qui on donnera une tablette de chocolat de temps en temps, mais un vassal quand même. Et moi, je ne suis pas du tout contre, anti-américain, pas du tout. Même, vous voyez, la tare totale, enfin, le défaut sans doute de ma culture, j'admire le cinéma américain, vous voyez, même les films d'action, et même les films d'action. Donc, je ne suis pas du tout américain, j'aime ce peuple, mais...
Mais vous avez lu Zbigniew Brzezinski.
Voilà, mais ça, quand il pense au dépeçage de l'espace post-soviétique, c'est quand même un charognard qui vient donc dans un pays malade et qui voudrait la dépecer. D'ailleurs, sans se préoccuper à ce qui se passerait après, comme on voit ce qui se passe maintenant en Irak ou en Afghanistan ou en Libye.
Comme il aurait probablement pu se passer d'ailleurs un certain 6 juin si des gens comme Jean-Claude Savant-Schreiber n'avaient pas fait flotter les couleurs de la France libre.
Voilà, on l'a un peu oublié, mais cet homme, à mon avis, il a représenté exactement l'essence de ces étrangers qui viennent en France, qui deviennent presque plus français que les Français. Il s'est engagé en 1939, donc il a participé à la bataille de France en 1940, mai-juin 1940. Il a été blessé, décoré, renvoyé de l'armée en tant que juif, et il a rejoint la résistance. Il a fui en Espagne pour continuer le combat, donc il a été emprisonné à un camp de concentration. Il aurait pu arrêter là en disant « Attendez, j'ai donné, c'est largement suffisant. Je ne suis pas un lâche, tant s'en faut. » Il est venu en Afrique du Nord et il a participé à ce débarquement à la Nartelle, près de Toulon, qu'on connaît très mal. On parle beaucoup du débarquement en Normandie. On a complètement oublié l'autre débarquement. Il a remonté le Rhône et il a terminé sa guerre en Allemagne, en Bavière.
Ce lieutenant Schreiber, c'est un type humain avant tout.
Oui,
c'est même pas un archétype, c'est un type humain.
Oui.
D'ailleurs, vous, dans la façon de le présenter, on sent que vous l'inscrivez dans une lignée un peu épique. Vous citez quelques phrases assez jolies des soldats de la vieille France, dans une lignée héroïque. Qu'est-ce qui caractérise ce type humain? Le refus de compter, je ne sais pas.
Je pense que c'est un type humain qui, très clairement, même si ce n'est pas conscient, se rend compte qu'il ne se redit pas à son enveloppe matérielle et à son statut social. Parce que justement, son statut social n'était pas mauvais du tout. Son père a déjà occupé une position qui aurait pu permettre à son fils, tout simplement, de rester tranquillement dans l'ombre, vous voyez, trouvé par piston, etc. Et ça n'a jamais joué. Ça n'a jamais joué, voyez-vous. Il est resté toujours en première ligne. Donc c'est quelqu'un qui se dit, en ce bas monde, tout ne se redit pas à ma chair, à mon enveloppe charnelle, et puis à ce petit jeu social dans lequel je suis entraîné. Il y a quelque chose d'autre, il y a un au-delà. Maintenant que cet au-delà s'exprime dans les termes d'une religion, d'une foi, plutôt d'une foi pour lui.
D'être.
Une manière d'être, on pourrait dire aussi ça. Mais pour lui, c'est plutôt une foi, parce que c'est un croyant, même si ce n'est pas du tout quelqu'un qui suit une ligne directrice de telle ou telle religion.
Je vais oser une hypothèse. Ce type humain n'a-t-il pas été toujours celui d'une extrême minorité? Est-ce que la différence, finalement, entre hier et aujourd'hui, N'est-ce pas simplement qu'avant, cette minorité était montrée comme un exemple à suivre et qu'aujourd'hui, on veut juste la cacher parce qu'elle est dérangeante.
Oui, non, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est ça qui a changé. C'est pas l'essence humaine, cette essence humaine qui a changé, c'est notre regard, enfin le regard qu'on nous fait poser sur ces gens-là, qui nous paraissent presque dépassés, anachroniques, passéistes. On dit mais non, maintenant ça ne se fait plus. Il faut être beaucoup plus rusé, il faut être beaucoup plus calculateur. Et c'était une sorte de folie, hein, une bravoure, une folie. Mais oui, les pères de l'Église disaient « credo qui via absurdum est », je crois parce que c'est absurde. Mais oui, la foi est absurde en elle-même. Et donc sa foi guerrière, sa foi de soldat, de résistant, était absurde. Si on suit le bon petit destin, une bonne petite carrière politique de quelqu'un de son âge, il n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Jamais.
Mais il ne l'a pas fait.
Mais il a résisté, oui.
L'autre chose qui ouvre des béances, c'est quand même la seconde partie de sa vie. Son attitude, quelle est-elle? Celui de quelqu'un qui joue le jeu, qui se met dans une sorte d'exil intérieur. Vous êtes plus pudique sur cette seconde partie, mais je me permets de vous poser la question, puisque vous l'avez connue.
Oui. J'en parle assez peu dans le livre, parce qu'il y a eu déjà des livres écrits sur le sujet. Entre autres, deux volumes de cette fameuse saga des servants Schraber. Donc, répéter les mêmes arguments, ça me paraissait superflu. Oui, c'était une existence assez brillante. C'est une pensée que je ne l'ai jamais communiquée, mais il m'a toujours semblé qu'à un moment, elle s'est dit, écoutez, vous voulez ça de moi, je vais le faire, et je vais le faire avec brio. Vous allez voir ce dont je suis capable. Vous voulez que je devienne un grand publicitaire, très bien, un diplomate, voilà. Il l'a fait, mais il l'a fait à contre-cœur. Et il y a quelque chose de presque proustien en lui, en ce sens que Proust disait, je suis venu dans ce monde en étranger, je repartirai en étranger. Et donc, sa vraie vie, c'est la vie de ses frères d'armes. Quand il commence à parler, il parle d'eux, beaucoup plus que de lui-même. Et c'est ça qui m'a attiré en lui, d'ailleurs. Je me suis dit, si c'était un égoïste, vous voyez, qui ne parlait que de lui-même, je n'aurais jamais écrit ce livre, ça ne m'intéresserait pas. Tandis que lui, il parle de ce colonel des hasards de Montgaillard, de ce capitaine Combeau de Roquebrune. Vous voyez, ce sont des noms qui, pour lui, évoquent un visage, un timbre de leur voix, le timbre de leur voix, un sourire. Ce sont des êtres encore qui sont de ce monde pour lui, tués en 44.
Pas pour nous, mais ils ont une sonorité qui évoque beaucoup de choses à beaucoup de monde quand même. Ce sont des noms qui sont chantants, qui semblent venir de très
Oui, mais
de
il y a
très,
des noms,
loin.
Il y a des noms beaucoup plus simples. Là, je ne sais pas, le cuirassier, le Bozec. Le Bozec, un bon petit breton, oui, qui
est tué. Je ne parlais pas forcément de leur consonance aristocratique, mais quand il y a ces litanies de noms, de morts et de disparus, il y a quelque chose qui nous met au-delà des... Oui. Au-delà des personnes incarnées, même si sa volonté est de les incarner précisément.
Moi, je ne les ai jamais rencontrés, voyez-vous. Et c'est comme ça qu'a débuté notre amitié, d'ailleurs. Dans cette France qu'on oublie d'aimer, j'ai cité quelques pages d'une brochure où leur nom était évoqué. Et Jean-Claude, en passant dans une librairie, a vu ce titre un peu bizarre, cette France qu'on oublie d'aimer, il a commencé à fuiter, tout à coup il tombe sur les noms de ses amis, de ses camarades d'armes, avec lesquels il se retrouvait d'abord en Espagne dans une prison franquiste, enfin dans un camp de concentration plutôt, et puis au moment du débarquement à la Nartel, à Toulon, à la prise de Toulon qui était extrêmement sanglante, donc il a parcouru un bout de guerre et l'a fait avec ces deux militaires.
Aujourd'hui, je sais que la question est lourde et ne vous appartient pas en propre, mais comment retrouver ce moule cassé, ce type d'homme? Comment le révéler? Comment agir ici ou là pour que cette alchimie mystérieuse renaisse?
Une seule réponse, c'est la résistance intellectuelle. Voyez-vous, ce que souvent... les Français oublient en parlant de Makine, c'est que moi j'ai vécu dans un pays totalitaire. Donc d'abord on n'était pas pressé pressés de publier nos livres. Oui. On disait ça, j'écris pour le tiroir de mon bureau, pour le tiroir. Donc, Solzhenitsyn a écrit une pièce de théâtre au Goulag. Et comme il n'avait pas de crayon, il a commencé à rimer un peu comme Racine ou Corneille aurait fait. Il a commencé à versifier. Et cette pièce de théâtre, pour ne pas oublier, et cette pièce de théâtre a été jouée 42 ans après. 42 ans. Donc, vous voyez, ce délai ne lui faisait pas peur. Mais il y avait cette énorme énergie de résistance en disant ou bien je résiste ou bien je ne suis pas. Donc, je ne suis plus moi-même. Je suis juste une ombre. Et si les intellectuels, les écrivains avaient cette vision-là, je pense qu'on pourrait très bien sortir de ce mauvais pas et puis peut-être proposer à la civilisation une nouvelle lecture de l'humanité. Ça s'impose d'ailleurs pas seulement, nous savons, nous sommes restés surtout dans le domaine historique, peut-être idéologique, politique, mais même, vous voyez, si vous prenez un domaine plus large qui est tout simplement la survie écologique ou alimentaire de l'humanité, de ces 7 milliards d'hommes. Nous étions 1 milliard sous Napoléon, nous sommes 7 milliards. Quand j'étais jeune, à l'école, tout jeune enfant, on nous disait « Ah, bientôt nous serons 3 milliards, vous imaginez ?» 3 milliards. Donc, dans ma vie qui n'est pas si longue que ça, c'est déjà, on a plus que doublé la population. Et en plus, cette population a beaucoup plus de besoins. Beaucoup plus de besoins. Quand on vient à Pékin, avec 10 ans d'intervalle, on voit au lieu d'une seule route, 5 périphériques. En France, on a un périphérique, il y a 5 boulevards périphériques. C'est quelque chose d'effrayant. Donc, de toute façon, voyez-vous, si on ne veut pas résoudre tous ces problèmes que nous avons évoqués, tout simplement la logique des choses, la fatalité historique nous obligera à les résoudre, mais d'une façon peut-être beaucoup plus inhumaine, immédiate et souvent meurtrière.
La solution, c'est de retrouver une dimension intérieure, alors ? Un empire intérieur ?
Non, la solution, c'est de ne pas nous réduire à ces deux hypostases qui sont bien réelles, c'est-à-dire notre corps mortel, périssable, et notre statut social auquel nous nous accrochons parce que c'est notre masque, c'est notre blindage, et qui finalement n'est qu'une ombre qui passe. Qui disparaît bien avant notre mort. Oui. Si on voit que notre humanité, notre essence va au-delà de cela, je pense que c'est déjà les prémices d'une compréhension.
Je pense que beaucoup de nos auditeurs qui se disaient que vous étiez déjà en marge de la société littéraire habituelle pour découvrir que vous l'êtes encore plus qu'on ne le pensait.
Mon cas est désespéré. Donc.
Le programme, c'est celui d'une forme de révolution des âmes, alors, finalement.
C'est une révolution spirituelle, oui, que je prône depuis beaucoup d'années déjà. Et le message passe, d'ailleurs, Il y a des colloques qui s'organisent, il y a des livres qui sortent, des livres qui sont publiés souvent sous un pseudonyme, justement, pour ne pas leur dire Makine. Et ça trouve son écho, mais c'est extrêmement difficile, il faut travailler.
Mais comme vous l'avez dit, ceux qui résistent ont le temps.
Voilà, ils ont l'éternité devant eux. Ce que, d'ailleurs, ont toujours pensé les auteurs français, vous vous souvenez-vous de Stendhal qui disait « on meulera dans 150 ans ». Finalement, il n'a pas attendu, il a attendu peut-être 30 ans grâce à Balzac. Flaubert, on l'a connu un peu plus tôt. Mais il n'avait pas peur, il disait ça, 150 ans, voyez-vous. Il avait tranquillement cette perspective de méconnaissance, d'ignorance pendant 150 ans. Et là, ça, quand même, ça forme.
C'était déjà de l'oubli de soi.
Oui.
Merci André.
Merci Martin. À vous.
Merci de nous ouvrir toutes ces perspectives. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver, donc, faire une sorte de bilan d'étape. Merci beaucoup encore, au nom de tous les auditeurs de Canal Académie.